Bonjour, moi je vais quitter la géopolitique pour vous parler des calottes polaires. Donc je vais parler de l'Arctique également, mais vous allez voir que je vais un petit peu insister aussi sur l'Antarctique. Je vais parler et expliciter ce que c'est que le terme de bilan de masse, et puis je vais brièvement mentionner leur impact actuel et à venir sur le niveau des mers, sans trop insister sur le niveau des mers, puisque vous aurez une présentation qui va suivre sur ce sujet. Alors je vais commencer par une image que vous avez probablement vue au mois de juin, pour vous dire que je ne vais pas parler de ce que vous voyez en fait. Ce que vous voyez, c'est de la banquise. La banquise, c'est de la glace de mer, c'est de l'eau qui a gelé. Et là, il s'avère que c'est un événement particulièrement chaud au mois de juin dans le nord-ouest du Groenland, où la surface de la banquise a fondu, a produit de l'eau, et comme elle n'est pas crevassée à ce moment-là, elle garde l'eau en surface, et c'est pour ça qu'on voit les chiens et qu'on a l'impression qu'ils marchent sur l'eau. Moi, je vais vous parler, si j'arrive à faire... Voilà. Je vais vous parler de ce qu'on devine dans le fond, par là, qui sont les calottes polaires. Et alors, le principe de formation de calottes polaires est complètement différent de la banquise, qui est de l'eau de mer salée. Tout commence à partir d'un flocon. Donc, la neige tombe sur un continent, s'accumule par les couches de neige successives, se tasse, se densifie, devient de la glace, puis progressivement, elle s'écoule. Alors, vous ne me croyez peut-être pas, je vais vous montrer ce film... qui est tiré du film de la glace et le ciel qui a été projeté. Donc vous en avez peut-être vu, c'est un tout petit extrait, c'est un accéléré d'un glacier, et on voit qu'effectivement la glace s'écoule un petit peu comme l'eau, c'est juste que les vitesses sont substantiellement différentes. Donc la neige s'accumule, se transforme progressivement en glace, s'écoule, avec des vitesses qui varie en fonction de où on se trouve. Vous avez ici les vitesses de surface telles qu'on est capable aujourd'hui de les mesurer par satellite, pour le Groenland à gauche et pour l'Antarctique à droite. Donc les vitesses sont particulièrement faibles au centre, elles sont de l'ordre du millimètre par an, puis cette glace, elle se canalise suivant des fleuves de glace ou des glaciers émissaires pour atteindre des vitesses de plusieurs kilomètres par an. Le glacier, j'en pointe trois en particulier sur lesquels je reviendrai par la suite, le glacier de Pine Island ici, et son voisin le glacier de Thwaites, qui s'écoule approximativement à 3 à 4 km par an, et le glacier du Jakobsen-Isbrae, qui en été doit maintenant s'écouler à peu près à 13 km par an, et c'est le glacier le plus rapide de la planète. Alors la glace part du centre, s'écoule, et puis éventuellement elle fond. Elle fond en surface et produit de l'eau, ce qu'on appelle en anglais le runoff, se canalise suivant ce qu'on appelle des baignoires et éventuellement forme des lacs. Très caractéristique au Groenland, relativement rare en Antarctique, l'Antarctique étant très nettement plus froid, et on va voir ça, les conséquences sur ces calottes. Alors, il peut faire suffisamment chaud, et puis à force de fondre, la glacier va s'arrêter. On va parler d'un glacier à terminaison terrestre, mais éventuellement, ça ne va pas fondre suffisamment, et la glace va se mettre à flotter sur l'océan, et va former des langues de glace flottantes, ou carrément remplir des baies, c'est le cas en Antarctique, et c'est ce qu'on va appeler en anglais des ice shelves, ou des plateformes de glace flottantes. Je vais probablement utiliser l'anglais par habitude. Elle flotte. Cette glace est soumise à la marée, aux tempêtes, au vent, et assez naturellement, elle se fracture et forme des icebergs. Tout ça est complètement naturel, et ce qui est important, c'est l'équilibre entre la neige qui va tomber, la quantité de cette glace qui va fondre et s'écouler vers la mer, et la quantité qui va véler en un iceberg. Et toute la question est de savoir si ce qui tombe annuellement est globalement compensé par ce qui ressort annuellement. La différence capitale entre une calotte polaire et la glace de mer, c'est qu'une calotte polaire va stocker de l'eau des océans sous forme solide, la glace, sur le continent. Donc si vous déséquilibrez cette balance, et si vous prenez de l'eau des océans, vous les mettez sur les continents, vous allez descendre le niveau de la mer, ce n'est pas terriblement d'actualité en ce moment. Si vous perdez de la masse, c'est-à-dire que où la fonte est plus importante, où les icebergs sont de plus en plus nombreux et plus importants en quantité que la quantité de neige qui va tomber annuellement, vous allez, dans ce cas-là, augmenter le niveau de la mer. Alors on va regarder ce qui se passe actuellement et Angélique en parlera beaucoup plus précisément que moi, et ce qui va se passer dans le futur, mais c'est toujours intéressant, avant d'examiner le présent et le futur, de se pencher ce qu'il y a sur le passé. Alors voici sur ce graphique qui retrace les 25 derniers milliers d'années l'évolution du niveau de la mer. Il y a 20 000 ans, on est dans la dernière période glaciaire. La dernière période glaciaire, on l'a vu, en température moyenne sur la planète, c'est à peu près moins 6 degrés par rapport à la période pré-industrielle. La conséquence, c'est que vous avez des énormes calottes polaires sur le Canada actuel. Je ne l'ai pas dit, mais une calotte polaire, c'est plusieurs kilomètres de glace, donc 2-3 kilomètres de glace. Sur la Scandinavie, un Groenland qui est un peu plus gros, et la conséquence, c'est que vous avez le niveau de la mer qui est 130 mètres plus bas. Vous passez à pied de l'Angleterre à la Bretagne. Pour des raisons de positionnement et de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil, le climat se réchauffe progressivement et arrive à peu près il y a 8000 ans au niveau de la mer qu'on lui connaît actuellement, zéro, avec des événements un petit peu particuliers. Je vais en pointer un là, qui s'appelle en anglais le Meltwater Pulse 1A. Il y a 14 200 ans, approximativement, je le fais de tête, je ne mettrai pas ma main au feu sur la dette, mais c'est à peu près il y a 14 000 ans, où pendant 4 siècles, le niveau de la mer a augmenté de 20 mètres. Donc on sait, par des évidences paléoclimatiques, que le niveau de la mer peut monter très fort. Alors j'entends déjà les climato-sceptiques qui ne sont pas là dans la salle, qui me disent « Ah ben alors, vous nous embêtez, avec 3 mm par an, on a pris 5 mètres en 4 siècles, enfin 5 mètres par siècle, on s'en fiche. » Alors je retorquerai que la différence, c'est qu'à l'époque, le chasseur-cueilleur déplaçait la tente de son fils, enfin le fils déplaçait la tente de son père, qu'aujourd'hui, déplacer New York est nettement plus compliqué. Mais est-ce que 3-4 mètres par siècle sont des choses raisonnable, ces calottes n'existent plus, on a donc un potentiel de glace en moins. J'ai oublié de le dire quand même, je vais le dire maintenant, le Groenland, c'est 7 mètres de glace qui sont stockés sur le Groenland, et l'Antarctique, c'est un peu plus de 60 mètres. Donc il y a un potentiel, et les glaciers de montagne, je ne l'aborde pas, c'est 40 cm. Donc il y a un potentiel à augmenter le niveau de la mer, de plusieurs mètres. La question est-ce que c'est raisonnablement envisageable dans un avenir plus ou moins proche, et sous quelles conditions ? Aujourd'hui, je vais faire très vite, le niveau de la mer, tel qu'il a été mesuré par les marégraphes et puis par le bleu, c'est les satellites. Je laisserai Angélique détailler tout ça. Je vous donne ma recette pour vous en souvenir. Le niveau de la mer aujourd'hui augmente globalement, c'est ce que j'appelle la règle des trois, 2-3 mm par an. Il y a un millimètre qui est dû à l'expansion thermique. C'est comme un ballon de baudruche dans une voiture. Si vous le laissez l'aider, il va gonfler, mais à l'océan, s'il chauffe, il gonfle. Vous avez les glaciers de montagne, alors par glaciers de montagne, j'entends les Alpes, très minimes, Himalaya, Andes, Alaska, qui sont les chaînes les plus importantes, qui contribuent elles aussi pour 1 mm. Et puis vous avez derrière 1 mm que se partagent les deux calottes de glace, avec grosso modo 2 tiers de ce millimètre pour le Groenland et un tiers pour l'Antarctique. Et on va voir, sachant qu'il y a 20 ans, ce millimètre à peu près n'existait pas. Alors, quels sont les changements observés sur les calottes du Groenland et de l'Antarctique ? Alors, avant de parler des changements en eux-mêmes, je voudrais parler un petit peu des méthodologies pour ces changements et tâcher de vous laisser intuiter qu'elles sont robustes. Il y en a trois aujourd'hui pour mesurer le bilan de masse des calottes polaires. Il y en a une qui est assez simple à comprendre physiquement, c'est l'altimétrie. L'altimétrie, vous mesurez un signal du satellite jusqu'à la surface de la calotte, puis vous repassez, et puis en divisant la distance, vous avez, enfin en divisant le temps du trajet, vous avez la distance, vous pouvez mesurer l'évolution des changements d'épaisseur. Ça a des avantages. Le premier, c'est que c'est extrêmement précis. Ça a des défauts, c'est que si l'évaluation change, ça peut être simplement la neige qui se tasse et pas forcément une perte de masse, mais ça nous donne une indication. Il y en a une autre qu'on appelle la méthode des entrées et des sorties. Alors elle est encore plus simple à comprendre. C'est vous mesurez les vitesses de surface, vous connaissez la hauteur de la glace, vous en déduisez un flux, vous connaissez ce qui sort. Vous avez d'un autre côté des modèles météo qui vous donnent la quantité de neige, vous faites la différence et vous avez le bilan de masse. Et enfin, il y a une troisième méthode, la gravimétrie, avec Tom et Jerry, les deux satellites qui se suivent. Je n'ai jamais réussi à me souvenir qui était Tom et qui était Jerry. L'idée de ces satellites, et c'est la seule méthode, c'est de peser ce qu'il y a sous le satellite. Alors là aussi, ça a des avantages, ça a des défauts. Le avantage, c'est que c'est la seule méthode qui véritablement pèse, mais elle ne pèse pas que les calottes. Ces trois méthodes sont indépendantes et donnent les mêmes résultats. Alors pas à la virgule près, il a même fallu plusieurs dizaines d'années pour qu'on s'accorde sur les valeurs. Mais pendant, à partir de GRACE, je vais peut-être dire une bêtise, 2002 il me semble, le début de GRACE, j'ai des graphiques qui vont le montrer, à partir de GRACE jusqu'à globalement 2012, les trois méthodes donnaient des pertes de masse sur les mêmes régions, elles n'arrivaient pas à s'accorder exactement sur la quantité. Depuis 2012, on est à peu près d'accord sur les quantités. Alors on va passer ces deux calottes. Voici le Groenland, ça c'est des images dues à GRACE et à la gravimétrie. Ce que vous allez voir, c'est en cumulé sur le graphique qui descend, les évolutions saisonnières de la masse du Groenland et sur la carte, les changements d'épaisseur relatives à ça. Et on peut voir que depuis 2004, donc ça doit être 2004, GRACE, c'est pas 2002, le Groenland perd de la masse année après année. Et si on est un petit peu observateur, on peut voir que la tendance... Alors évidemment, il y a des fluctuations saisonnières. Hein, il neige en hiver, il neige moins en été. Ça a une tendance à l'accélération. C'est schématisé par ce graphique qui mériterait d'être un petit peu étendu dans le temps puisque la dernière année commence à dater, je ne sais plus exactement. Enfin, globalement, ce que vous voyez sur cette carte, c'est plus la date est grosse et va vers des couleurs chaudes, plus la fonte a été importante en surface du Groenland. Et vous pouvez voir que les années 2000, alors je ne sais plus quelle est la première date, mais ça doit être, c'est au moins 1981 que je vois là-haut, non, 79, depuis 30 ans à peu près d'informations compilées sur cette carte, vous voyez que les années 2000-2010 sont particulièrement bien représentées. Alors le Groenland perd de la masse parce que la fonte à sa surface augmente. Elle augmente à la fois dans la surface qui est concernée par la fonte, l'extension de la fonte augmente, mais aussi la durée de la fonte augmente. Et ça représente à peu près 60% de la perte de masse actuelle du Groenland. Il y a 40% qui sont dus à ce qu'on appelle la dynamique. J'en reviens au glacier du Jacobson que je vous présentais tout à l'heure, qui est maintenant par là. Et ce que vous voyez, c'est la position de son front. Et vers les années 2000, en quelques années, le front a reculé de près de 20 km et la vitesse de ce glacier a été accélérée par 3. Donc ce glacier qui draine 7% de la masse du Groenland, s'il accélère x3, il rejette 3 fois plus de glace vers l'océan qu'il n'en rejetait auparavant. Donc aujourd'hui, et depuis une vingtaine d'années à peu près, le Groenland perd de plus en plus de masse, d'abord parce qu'ils fondent en surface, mais ensuite parce qu'un certain nombre de ces glaciers ont accéléré et se sont reculés. Le Jacobson étant le plus emblématique, mais ça concerne un certain nombre de glaciers au nord-ouest, au sud, à l'ouest, la côte ouest, le sud-ouest, et puis maintenant le nord avec le fameux glacier du nord, le Nord-Est Ice Stream. L'Antarctique. Alors j'ai dit que j'insisterai plus sur l'Antarctique. Vous avez ici le même type d'animation, toujours avec GRACE, et ça pointe les régions qui perdent de la masse et qui en gagnent. Alors celle-ci est une région un petit peu particulière, il y a des fleuves de glace ici qui ont une dynamique qui est liée à l'interaction avec l'hydrologie sous-glaciaire, les sédiments qui sont dessous, et il s'avère qu'il y a une centaine d'années, un de ces ice streams s'est arrêté, et qu'on voit encore aujourd'hui cette région prendre de la masse. Ben oui, si le glacier s'arrête, il évacue moins de glace et donc il grossit en amont. C'est le contraire de ce qu'on observe typiquement au Groenland. Et puis vous voyez deux régions, trois régions qui sont très rouges. La péninsule, je vais y revenir. Relativement peu de glace en péninsule, c'est très très montagneux. Hein. Vous avez l'Amérique du Sud au sud, donc relativement peu de glace. Le secteur d'Amundsen. C'est la mer d'Amundsen ici, avec le glacier que je vous pointais tout à l'heure, qui est le glacier de Pine Island et le glacier de Thwaites. Je vais insister beaucoup sur ces deux glaciers. Et puis, ce grand glacier-là, qui est le glacier Totten, vers la base australienne. Donc là encore, l'Antarctique, qui était vraisemblablement globalement à l'équilibre, perd aujourd'hui de la masse, en perd de plus en plus, pour à peu près un tiers de millimètre, Et la grande majorité de cette perte de masse est concentrée sur le secteur d'Amundsen à travers le glacier de Pine Island et le glacier de Thwaites. Alors, si vous lisez l'anglais, je vous conseille de chercher dans Nature un papier de 1978 écrit par John Mercer. Je recommande à toute personne qui commence une je souhaite à toute personne qui commence une carrière académique un jour d'écrire comme celui-là, puisque John Mercer en 1978 écrivait "Nous augmentons nos gaz à effet de serre. En augmentant les gaz à effet de serre, nous allons voir les plateformes de glace successivement depuis le nord de la péninsule jusqu'au sud diminuer et cette partie de la calotte est peut-être instable." Eh bien, voici une petite animation. Vous voyez les plateformes du Larsen A qui s'est rompu en 1995, du Larsen B qui s'est rompu en 2002 et puis le Larsen C au mois de juillet 2017 qui a vu un énorme iceberg se former et qui est le prochain sur la liste et qui est scruté. Alors, les plus attentifs et les plus physiciens d'entre vous me diront, mais on s'en fiche, parce que c'est de la glace qui flotte, vous nous l'avez dit au début, et si la glace, elle flotte, elle contribue déjà au niveau de la mer. C'est une expérience que vous pouvez faire, tout un chacun. Vous prenez un verre d'eau, vous le remplissez de glaçons, vous remplissez les interstices d'eau jusqu'au bord du verre, les glaçons vont émerger du verre, mais quand ils vont fondre, le verre ne va pas pourtant déborder. C'est la poussée d'Archimède. Donc, en effet, ces plateformes fondent. Si elles collapsent, ces plateformes flottent, si elles se démantèlent, elles ne vont pas avoir d'effet direct sur le niveau de la mer. Oui, mais ces plateformes, elles agissent comme des bouchons sur les glaciers qui sont en amont. Typiquement, le Larsen B, c'est là le collapse pour lequel on a le plus d'informations, c'est un des plus récents. On a une image du Larsen B en février 2002, on voit la plateforme. On a une image en mars, on ne voit plus la plateforme. Et on a mesuré la vitesse des glaciers qui nourrissaient cette plateforme. Eh bien, l'accélération la plus importante pour ces glaciers a été un facteur 8. C'est-à-dire que du jour au lendemain, parce que la plateforme n'était plus là, le glacier s'est écoulé 8 fois plus rapidement. S'écoulant 8 fois plus rapidement, il rejette 8 fois plus de glace vers l'océan. Mais bon, finalement, cette région-là, on s'en fiche un tout petit peu. En termes de potentiel, il y a l'équivalent de quelques centimètres de niveau des mers. C'est pas si dramatique que ça. Oui, mais la région d'Amundsen, avec le glacier de Pine Island et le glacier de Thwaites, eux sont particulièrement inquiétants. Et John Mercer, en 1978, en parlait déjà dans son papier. Il en parlait dans son papier parce que, vous allez le voir par la suite, cette région est potentiellement instable. Et c'est ce sur quoi je vais insister dans la suite de cet exposé. Et c'est, à mon avis, le message clé à retenir de cette présentation. Tout ça pour vous dire, sur ce transparent-là, que depuis la fin des années 90, globalement, ces deux glaciers ont vu leur vitesse doubler, et donc la quantité de glace qu'ils rejettent vers l'océan, doubler. Alors, quelles sont les projections? Alors, Valérie, ce matin, nous a d'ores et déjà montré ce graphique. Je ne vais pas, et je ne sais pas, peut-être que Angélique, tu l'as également. Il est issu du dernier rapport sur l'océan et la cryosphère du GIEC, qui est le groupement intergouvernemental d'études pour le climat, et qui travaille régulièrement à faire une synthèse de l'ensemble des connaissances sur la question. Et la question là est donc l'océan et la cryosphère. Vous pouvez voir les périodes observées sur la zone violette. Donc, on n'observe pas l'Antarctique et le Groenland depuis très longtemps, c'est très gros, c'est très compliqué, il nous a fallu les satellites pour y arriver. Suivant les scénarios du GIEC, donc le RCP 2.6, qui est un scénario assez ambitieux en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de limitation, on arrive pour chacune des composantes à globalement, dans le cas le pire, 30 cm pour l'Antarctique en 2100, une trentaine de centimètres pour le Groenland, une vingtaine de centimètres. Si on additionne tout ça, les scénarios les pires sont autour du mètre à l'échéance de 2100. Ce qui est plus intéressant sur ce graphique, et c'est ce sur quoi je vais insister, c'est cette différence entre ces deux courbes sur une horizon un petit peu plus lointaine que 2100. Dans un cas, on reste sur une augmentation qui est de l'ordre du mètre, et dans l'autre cas, sur quelque chose qui est plutôt de 4-5 mètres. Vous aurez noté aussi que la pente de ces courbes n'est pas nulle, autrement dit, le niveau de la mer augmente aujourd'hui, augmentera demain, augmentera en 2100, augmentera en 2300 et continuera d'augmenter après, parce que c'est des processus qui ont une inertie particulièrement longue. Alors, c'est quoi, d'où vient la différence entre ces deux courbes ? Eh bien, elle vient du fait que les deux calottes, et pour des raisons différentes, et c'est ce que je vais tâcher de vous expliquer là, sont potentiellement instables. Le Groenland. Alors, le Groenland, ça se comprend assez bien, c'est assez facile, c'est ce qu'on appelle en français l'instabilité des petites calottes. Aujourd'hui, le Groenland n'existe que parce qu'il y a 20 000 ans, il y a eu une ère glaciaire. L'expérience est assez simple, si vous allez dans les montagnes, en haut des montagnes, il y a de la neige, en bas des montagnes, il n'y a pas de la neige. Il y a une élévation, une diminution de la température à mesure que vous montez en altitude. Si aujourd'hui, il n'y avait pas de Groenland, pas de calotte du Groenland, le niveau du continent sera à peu près au niveau de la mer, et globalement, sur l'année, il n'y aurait pas de précipitations solides. Évidemment, en hiver, il neigerait, mais elle fondrait tout au cours de l'année. Aujourd'hui, le Groenland n'existe que parce que le sommet du Groenland est à 3000 mètres d'altitude. Donc, il y a de la neige. Mais si vous venez à faire fondre, ou en tout cas à perdre de la masse du Groenland, vous allez diminuer l'altitude du Groenland. Si vous diminuez l'altitude du Groenland, il y fait plus chaud. Donc les précipitations solides sont moins importantes. Et vous avez un seuil qui est évident, c'est que le jour où il se met à pleuvoir en moyenne sur toute l'année, sur l'ensemble du Groenland, la calotte est irrémédiablement perdue. D'accord ? Alors c'est un petit peu plus subtil que ça, il n'y a pas besoin qu'il pleuve toute l'année, mais globalement c'est ça le schéma, c'est si vous avez des précipitations liquides toute l'année sur la calotte, vous pouvez faire ce que vous voulez, la calotte est irrémédiablement perdue. Ça prend du temps. Ça prend des millénaires, et plus il fera chaud, plus ça sera court. Donc le Groenland, on estime que son point de bascule est quelque part autour de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. L'Antarctique. Alors l'Antarctique, c'est ma calotte préférée, parce qu'elle est très intéressante du point de vue d'un dynamicien de la glace, qui est ma spécialité. Si vous enlevez l'Antarctique et que vous regardez l'élévation de son socle, vous avez cette carte. Et cette carte a un code couleur qui fait que la limite des bleus, c'est ce qui est sous le niveau de la mer. Et vous pouvez voir, donc, je vous le place, ici c'est le glacier de Pine Island, le glacier de Thwaites, ont leur socle sous le niveau de la mer. Et si vous regardez encore un petit peu plus subtilement, vous pouvez voir qu'on s'épaissit, là, on va vers des couleurs bleues plus sombres. Autrement dit, le socle sous le niveau de la mer est plus bas à l'intérieur de la calotte qu'il ne l'est sur la côte. Et c'est un petit peu vrai vers, vous vous souvenez, ce glacier-là, le glacier de Totten. Ça ne l'est pas du tout ici, c'est les montagnes. Et alors, ça a une conséquence importante. On va faire une coupe au niveau de cette ligne-là, en plein milieu du glacier de Thwaites. On va être très schématique. Et globalement, ça ressemble à ça. Vous avez ici un point particulier qu'on appelle la ligne d'échouage, ou la grounding line en anglais, et c'est la limite à partir de laquelle la calotte qui est posée sur son socle se détache pour flotter sur l'océan. Autrement dit, toute la glace qui passe à travers le portail à la verticale de cette ligne d'échouage est une glace qui flotte, et donc une glace qui contribue au niveau de la mer. Et la topographie du glacier de Thwaites, du glacier de Pine Island et de beaucoup de glaciers en Antarctique de l'Ouest est celle-ci. Alors, il a été démontré assez récemment que, je vais être très technique, mais je vais expliquer ce qui est par la suite, le flux de glace à la ligne d'échouage est une fonction de puissance de la hauteur de glace à la ligne d'échouage. Autrement dit, plus c'est épais, plus le flux est important. Alors, on va schématiser ça, pour le faire simple. Imaginez que cette ligne d'échouage, c'est un cycliste, hein, en haut d'une montagne. Ce cycliste, vous le poussez un tout petit peu. Il n'a pas de frein, le malheureux. Si vous ne le poussez pas trop fort, il va rester en haut de la montagne. Si vous poussez un peu trop fort et qu'il s'engage dans la pente, bah vous connaissez la suite. Hein. Il s'arrêtera que lorsqu'il sera arrivé dans le fond de la vallée. Et c'est ce qui pourrait arriver à cette partie de l'Antarctique de l'Ouest. Antarctique de l'Ouest, potentiel 3 mètres de niveau des mers. La question est, quelle vitesse ? Quel est le seuil ? C'est des questions qui restent largement débattues dans la communauté, avec vivacité, dirons-nous. Y a un consensus pour dire que le seuil, le point de basculement, il est lui aussi quelque part autour de 2 degrés. Autrement dit, les choix que nous faisons aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu un scénario à 1,5, il est qu'on intuite qu'il y a des points de basculement dans le système et les deux calottes polaires ont des points de bascule vers ces températures-là, vont induire des changements drastiques de l'Antarctique, du Groenland, avec des conséquences sur le niveau de la mer qui se mesurent en mètres sur des siècles et des millénaires. Ce qui m'amène au message que je vous recommande de retenir si vous avez envie de retenir. Ils sont finalement pas si nombreux que ça. Le niveau de la mer augmente de 3 mm par an approximativement, un petit peu plus. Les calottes polaires contribuent à 1 mm à peu près à ce niveau des mers. Leur contribution a très largement augmenté au cours des 20 dernières années. Les calottes polaires ont le potentiel d'élever le niveau marin de 50 cm à l'horizon de 2100 et beaucoup plus à l'avenir. Et Groenland et Antarctique sont proches de points de bascule qui peuvent amener à des retraits trop entretenus, vous ne pourrez pas les arrêter, le cycliste ne s'arrête pas dans la pente, qui sont susceptibles d'élever le niveau de la mer de plusieurs mètres en quelques siècles. Je vous remercie.